le magazine des Nations Unies.
Renouvellement du mandat de la MONUSCO, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce en principe ce mardi 27 mars. Selon les dernières indiscrétions, le prochain mandat de la mission onusienne en RDC mettra l'accent sur l'organisation des élections et la protection des populations civiles. Et pendant que les regards sont tournés vers New York, à Genève, la RDC était encore au centre des discussions au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où la situation au Kasaï dans ce domaine a été particulièrement mise en évidence. Environ 24 000 déplacés bénéficiaires d'une assistance humanitaire du Programme alimentaire mondial, PAM, en Ituri. Les premières distributions de cette assistance ont débuté mardi dernier. Voilà, ce sont donc là le grand point d'actualité de ce magazine. Merci à tous de nous suivre.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour, un nouveau mandat pour la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC MONUSCO. C'est pour le mardi 27 mars. Avant cette échéance, plusieurs voix se sont élevées pour demander au Conseil de sécurité de donner à la MONUSCO un mandat plus robuste au regard des enjeux politiques et sécuritaires auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lali Coco.
Comme il est de coutume depuis 2001, le Conseil de sécurité prend ce mardi une résolution sur le renouvellement d'un an du mandat de la MONUSCO à 9 mois des élections. Ce mandat est recentré sur deux priorités, les élections en décembre 2018 et la protection des civils. Concernant les élections, la MONUSCO est appelée, plus que par le passé, à apporter un soutien logistique et une assistance technique à l'organisation des scrutins, notamment pour le transport des kits et agents électoraux, ainsi que leur déploiement. Pour ces deux priorités, les Nations Unies maintiennent les effectifs à 16 000 casques bleus, alors que le gouvernement congolais, lui, souhaite leur réduction. Par ailleurs, l'ONU ne cache pas son inquiétude devant les contextes électoraux avec la répression des opposants, la multiplication des groupes armés, les violations des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité souligne la nécessité de faire tout son possible pour que ces élections se tiennent dans des conditions de transparence, de crédibilité, d'inclusivité et de sécurité. Il insiste sur la date butoir du 23 décembre 2018 comme une ligne rouge à ne pas franchir par les présidents de la CENI et son staff pour l'organisation des élections à tous les niveaux. L'ONU brandit toutefois la menace d'un renforcement de la MONUSCO. Dans cette optique, le secrétaire général de l'ONU devra faire rapport de 3 mois d'implant des contingences des casques bleus en RDC, y compris en redéployant les casques bleus d'autres missions. Le Conseil charge aussi Antonio Guterres d'une mission de bons offices. Un projet de rencontre Guterres-Kabila est en chantier en vue d'harmoniser les vues sur les deux missions prioritaires de la MONUSCO.
De New York, où le Conseil de sécurité va se prononcer sur les prochains mandats de la MONUSCO, rendons-nous à présent à Genève, où le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a encore débattu de la situation de la RDC en matière des droits de l'homme cette fois-ci. La chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, la ministre congolaise des droits de l'homme, Marie-Ange Mchobekwa, ainsi que Bakri Ndiaye, membre de l'équipe d'experts internationaux sur le Kasaï, ont pris part aux discussions, et c'était le mardi dernier. Des précisions avec Joël Bofengo.
L'équipe d'experts internationaux sur la situation au Kasaï a été mise en place en juin 2017 après une décision du Conseil des droits de l'homme. Ces experts sont chargés d'établir l'ensemble des faits et circonstances sur les violations des droits de l'homme commises au Kasaï depuis 2016. Bakri Ndiaye a déclaré devant le Conseil des droits de l'homme qu'il serait prématuré de tirer des conclusions sur les éléments de preuve que son équipe est toujours en train de collecter. Ces experts ont conduit plus de 300 entretiens avec des témoins et victimes. Ils ont également reçu de nombreuses informations provenant d'un large éventail de sources, a fait savoir M. Ndiaye. L'expert a indiqué que du côté des miliciens et des forces de l'ordre, un nombre très important d'actes de violence et de violations des droits de l'homme ont été relevés. L'équipe d'experts doit présenter en juin un rapport complet lors de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme. Pour sa part, la ministre congolaise des droits humains a fait savoir que plusieurs personnes, civiles et militaires, soupçonnées d'implication dans les atrocités au Kasaï, ont été condamnées par la justice nationale et que les enquêtes se poursuivent. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies revient dans cette édition sur la Journée internationale des consommateurs, célébrée le 15 mars de chaque année en RDC. C'était pour la première fois que les manifestations relatives à cette journée ont été organisées à l'initiative de l'Organisation de défense de consommateurs, ODC, dont le président, Derek Tshibangu, avait répondu aux questions d'Honorim Senga Kelala. Suivez.
Maître Derek Tshibangu, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi célébrer la Journée des consommateurs ?
Pourquoi célébrer? Puisque le consommateur d'abord nous inclut tous. Aujourd'hui, ça doit être une fierté pour le consommateur de se réunir afin de faire la promotion de ses droits, de dénoncer les abus du marché économique qui mine ses droits. Voilà pourquoi nous fêtons et nous organisons cette journée. Je voudrais souligner que c'est pour la première fois en RD Congo que telle journée est célébrée et que ça puisse être pareil pour le futur.
Vous parlez des droits des consommateurs. Quels sont ces droits? Vous pouvez nous en citer quelques-uns.
Il y a le premier droit, c'est le droit à l'accès de besoins de base. C'est-à-dire ici, le consommateur doit avoir accès facile aux besoins élémentaires, notamment le logement, la nourriture, l'eau, l'électricité et autres qui sont élémentaires pour la vie humaine. Le deuxième droit, c'est le droit à la sécurité. Ce droit voudrait que la conception d'un bien, produit ou service doit être faite dans son processus de sorte que cela ne menace pas la santé du consommateur. Et le troisième droit, c'est le droit à être informé. Le consommateur doit être informé sur le bien ou service de consommation. Lorsqu'il se trouve sur un bien, il doit savoir d'abord quel est le contenu, la provenance, la date de péremption, ce sont les éléments. Lorsque le consommateur se trouve sur un bien dont l'emballage et les mentions sont dans une langue étrangère, un tel bien est impropre à la consommation. Il y a le droit de choisir. Ça veut dire que le consommateur, lorsqu'il se trouve devant de biens compétitifs, il doit être capable de faire son choix. Vous avez le droit d'être entendu, c'est-à-dire dans la conception de la politique gouvernementale, on doit tenir compte des intérêts légitimes des Congolais. Vous avez aussi le droit à l'éducation. Le consommateur doit être formé pour qu'il ait les compétences et les capacités de faire un choix juste. Vous avez le droit à la réparation. Ici, lorsque la consommation n'a pas été satisfaisante, ou lorsque cette consommation a porté préjudice au consommateur, il faudrait que ces préjudices soient réparés. Et enfin, vous avez le droit à un environnement sain. Donc, le consommateur doit vivre dans un environnement qui protège sa vie présente et future.
C'est sous quel thème cette journée a été placée?
La journée a été placée sous le thème « Rendre le marché du numérique plus équitable ».
Pourquoi le numérique? Qu'est-ce qui a justifié ce choix?
Vous savez qu'aujourd'hui, le numérique devient un outil moderne à travers lequel beaucoup de marchés qui font de vous et moi consommateurs se passent à travers le téléphone. Un exemple, à travers votre téléphone, vous achetez un billet. À travers vos téléphones, vous ferez n'importe quelle transaction. Et on voudrait ici informer et former le consommateur sur l'accès, la sécurité des arnaques, des escroqueries qui se passent sur ces numériques. C'est pourquoi on voudrait que ces marchés-là, avec les études, avec des conférences, avec des idées qui doivent venir de partout, on puisse rendre ce marché équitable, sécurisant pour le consommateur.
Vous avez énuméré un certain nombre de droits des consommateurs. Votre organisation, l'Organisation des droits des consommateurs, quelles sont les actions que vous comptez entreprendre pour faire respecter ces droits et pour informer ces consommateurs?
Les actions que nous avons déjà entreprises sont nombreuses. Nous ne pouvons ici évoquer l'action par rapport au passeport semi-biométrique, par rapport aux coupures d'Internet, par rapport au scandale de lait infantile produit Lactalis. Il y a des opérations, campagnes sur la consommation citoyenne. Aujourd'hui, Nous sommes sur la conférence de célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs. Il y a des perspectives en cours que nous envisageons, dont une campagne sur le droit proprement dit des consommateurs congolais, que nous dénommons déjà « Connaître vos droits des consommateurs ». Et aussi, pour renforcer cela, nous sommes en train de chercher à constituer un lobbying afin de plaidoyer sur la promulgation de la loi portant protection des consommateurs et aussi chercher à ce qu'on puisse insérer dans le programme de l'éducation au niveau primaire la notion de la consommation citoyenne, donc l'éducation à la consommation pour nos enfants. Quand nous évoquons ici le numérique, vous verrez déjà que la plupart de nos jeunes, c'est devenu un acte avec lequel ils s'amusent, ils jouent, ils communiquent même. Faudra-t-il déjà penser à ce qu'ils soient formés et informés par rapport à ça? C'est pourquoi nous cherchons à constituer un lobby à ce qu'on puisse insérer l'éducation à la consommation dans le programme de l'enseignement primaire.
Maître Derek Chibang, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous commençons par cette information de la Cour pénale internationale. La République des Philippines veut se retirer du statut de Rome. Ce pays a déposé le 17 mars 2018 la notification écrite de son retrait du statut de Rome. Le traité fondateur de la Cour auprès du secrétaire général des Nations Unies en tant que dépositaire du statut. Le retrait du statut de Rome est une décision souveraine qui est soumise aux dispositions de l'article 127 de ce statut. Le retrait prend effet un an après le dépôt de la notification de retrait auprès du secrétaire général des Nations Unies. Notons qu'un retrait n'a aucune incidence sur les procédures en cours ou sur toute autre question déjà examinée par la Cour avant la date à laquelle il a pris effet. Pour rappel, la République des Philippines a ratifié les statuts de Rome le 30 août 2011 et les statuts sont entrés en vigueur le 1er novembre 2011. Le docteur Djibril Diallo, nommé président directeur général du African Renaissance and Diaspora Network et dirigeant de l'Initiative Pathway to Solutions sous les auspices des Nations Unies. Information livrée le 1er mars dernier par cette structure. Sa nomination prendra effet ce 25 mars. Monsieur Diallo est, rappelons-le, directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, également conseiller principal du directeur exécutif du programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA, ONU-SIDA. Il a occupé plusieurs postes de direction auprès des Nations Unies pendant plus de 3 décennies.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité de ce dimanche est Darius Mbenza, directeur ad intérim de l'Alliance franco-congolaise de Kinshasa. Il parle, dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, célébrée, rappelons-le, le 20 mars dernier, de la langue française, de son statut et de son état actuel en RDC, mais aussi de l'avenir de la langue française face à la menace de la langue anglaise dans ce pays et de sa coexistence avec les langues nationales. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Darius Mbenza, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la francophonie. Le thème est retenu, c'est la langue française. Alors, la première question, c'est de savoir l'état de la langue française en République démocratique du Congo.
Oui, d'abord, il faut préciser que la langue française a un statut dans notre pays. C'est la langue officielle. Quelle que soit votre étendue de connaissance de langue, lorsque vous parlez en officiel, vous devez utiliser la langue française. Pour ce qui est de son état, on peut dire maintenant que la langue française connaît quand même quelques problèmes parce que dans sa diffusion, il y a des problèmes. Dans son utilisation, il y a des problèmes.
Quels sont ces problèmes?
Dans sa diffusion, on doit ici peut-être expliquer que 90% des locuteurs de la langue française dans notre pays l'ont appris dans l'enseignement. Il y a bien sûr des gens qui ont appris la langue française en famille, mais ils l'ont apprise des personnes qui l'ont appris eux-mêmes de l'enseignement.
Et là, ça pose problème.
Là, ça pose problème puisqu'actuellement, dans l'enseignement, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas une méthodologie à adapter, ce qui fait qu'on fait 6 ans de la langue française. Je peux même commencer un peu plus tôt. 3 ans de la langue française à l'école maternelle, 6 ans à l'école primaire, 6 ans à l'école secondaire, et on utilise le français 5 ans à l'université pour nous arrêter qu'au niveau des licences. Mais il y a des gens qui en sortent encore avec beaucoup de problèmes, de lacunes par rapport à la langue française.
Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Je pense qu'il faut encore réfléchir sur les méthodologies et puis créer les manuels pour rejoindre l'attente du public et surtout des parents, parce que les parents se plaignent beaucoup. C'est une nécessité. Pour moi, c'est un impérieux parce que aujourd'hui, il y a de ceux qui terminent l'université et produisent des travaux, ce qu'on appelle les travaux de fin de cycle, les TFC. Ils les produisent dans une langue qui n'est pas très très corrigée. Mais puisqu'ils sont fiers d'avoir produit ce travail, ils les diffusent dans les réseaux sociaux, dans les et ces travaux circulent à travers le monde. Et lorsqu'on veut avoir quelque chose sur notre pays, on recourt parfois à ces travaux-là parce que ce sont des travaux qui ont des titres qui concernent vraiment des problèmes sérieux de notre pays. Mais qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Une langue approximative et puis bon voilà.
Malgré cela, Monsieur Darius Mbenza, on parle de la République démocratique du Congo comme étant le deuxième pays francophone, après la France, bien entendu.
Je ne sais pas, deuxième pays, du point de vue peut-être de l'étendue ou du point de vue
des locuteurs.
Des locuteurs, oui. Effectivement, nous sommes le deuxième pays parce que, comme je dis que la langue française a un statut d'officialité dans notre pays, eh bien, lorsque vous cherchez un document dans l'administration publique, on va vous le fournir en langue française.
Autre problème, la menace de la langue anglaise sur le plan économique, vous le savez, et bien sûr de la mobilité internationale.
Ce problème entre l'invasion de la langue française, ce n'est pas un problème nouveau. À l'époque déjà, il y avait les latins qui avaient des problèmes avec le français.
Et le latin a fini par disparaître.
Oui. Actuellement, c'est l'anglais. Bon, l'anglais a eu un pas sur la diffusion des objets économiques, la mobilité internationale. Et d'ailleurs, il y a une expression, on dit que lorsque vous prenez votre avion, vous laissez votre français au tarmac. Ça, c'est vrai. Mais par rapport à notre pays, au niveau intérieur, je ne pense pas que l'anglais menace le français. Non,
On peut parler maintenant de l'avenir de cette langue française et quel est son avenir en République démocratique du Congo?
Oui, je voudrais dire ceci que du point de vue officiel, la langue française n'est pas menacée. Mais du point de vue de son utilisation, vous voyez par exemple ici à Kinshasa, les gens regardent bien la télévision, suivent la radio, mais ils préfèrent suivre la radio ou regarder la télévision dans les créations et les productions en lingala. Exemple, ce qu'on appelle le théâtre de chez nous.
Oui, là nous pouvons aborder les problèmes de la coexistence des langues nationales, les quatre langues nationales, et le français.
Ça aussi, je pense, à mon avis, que le français ne menace pas les langues véhiculaires nationales. Non, je ne pense pas. Les langues véhiculaires ont leur place et les Congolais ne sont pas prêts à les lâcher. Nous avons même, à l'Alliance franco-congolaise de Kinshasa, fait des conférences pour amener les acteurs ou les créateurs de ces choses-là de les faire en français. Mais ils ont dit que s'ils osaient le faire en français, ils allaient perdre leur naturel, leur spontanéité.
Donc c'est un problème culturel.
Oui, c'est un problème culturel, mais on ne doit pas le poser dans des termes de menace. Mais je pense qu'il y a une coexistence qui est là, qu'on doit constater entre la langue française.
Comme qui dirait une coexistence pacifique.
Pacifique, oui.
Monsieur Darius Mbenza, Radio Kapi, vous remercie d'être venu ici dans notre studio et parler un peu de cette langue française qui est beaucoup appréciée, qui a beaucoup de richesses et qui doit survivre dans notre pays.
Merci.
Le programme alimentaire mondial PAM au secours de 24 000 déplacés de Djougou et d'Irumon en Ituri. Une première assistance humanitaire du PAM a eu lieu mardi 20 mars dernier. Elle a été destinée aux déplacés de la localité de Pandourma, à une centaine de kilomètres au nord de Bounia, ainsi qu'à ceux de Kasséni, au bord du lac Albert. Les détails avec Isaac Remoyopé.
Au site de Pandourma, territoire de Djougou, le nombre des bénéficiaires est évalué à environ 6000 personnes. Ils reçoivent des farines de maïs, d'huile végétale et du sel. Au site de Kasséni, à 55 km aussi de Bougne, au bord du lac Albert, il y a environ 18 000 déplacés qui reçoivent depuis mardi des vivres. Il s'agit des haricots, des farines de maïs et du sel pour un mois. La société civile de Pandourma salue cette action des humanitaires qui permet de soulager la souffrance des déplacés qui sont dépourvus de tout. Mais son président indique que cette assistance est insuffisante suffisante pour couvrir les besoins alimentaires de ces personnes. Selon des sources concordantes, la province de l'Ituri compte actuellement environ 350 000 déplacés disséminés en territoire des Mahagi, des Djougou et d'Irumu. La plupart d'entre eux n'ont pas encore reçu de l'assistance et vivent dans des conditions déplorables, signalant que les actions humanitaires étaient orientées jusque-là au camp de l'hôpital général de Bounia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez à présent cette question sur la situation sécuritaire de Djougou en Ituri et la réponse du porte-parole militaire intérimaire. Question posée au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies du mercredi 14 mars dernier.
Frédéric, je travaille pour Radio Sokendjili. Ma question s'adresse une fois encore au commandant Adil et c'est sur la situation de Djougou. Quelles sont concrètement les activités que vous faites dans le cadre des opérations militaires dans les territoires de Djougou? Puisque les forces de sécurité congolaises apparemment sont dépassées par les violences dans les territoires de Djougou.
Je peux même vous parler des cas concrets où la semaine dernière on a reçu des informations sur une attaque qui se prépare sur le village de Bolé, qui est à 15 km nord Blokwa. Donc une patrouille de notre base temporaire de Blokwa a été dépêchée sur place et les assaillants ont pris la fuite à l'approche de notre patrouille. Effectivement là, il y a une attaque qui a été faite au niveau de Blokwa centre contre le camp des FRDC. Donc on a lancé notre patrouille en appui aux éléments de sécurité nationaux et on a pu repousser cette incursion. Donc c'est une panoplie d'activités militaires qui est en train de se faire. Donc on a intensifié nos patrouilles pour la création d'un environnement protecteur plus ou moins.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je réponds au nom de Niampala Batouli Dirougé, c'est mon prénom. Je suis effectivement marié et père de plusieurs enfants, détenteur d'un diplôme au niveau secondaire en pédagogie générale, bien entendu, et je détiens également un diplôme universitaire en pédagogie appliquée. À cela, il faut ajouter plusieurs autres brevets, certificats, diplômes, notamment dans le journalisme en zone de conflit, journalisme narratif, en développement durable, en programme sur le VIH-SIDA, etc. À l'heure actuelle, j'ai continué aussi, il faut le dire, à étudier dans une université africaine. Alors, pour le moment, je suis journaliste, reporter, producteur à la radio Capi Congo Central, basée précisément dans la ville de Matadi. Mon rôle est de recueillir des sujets, les discuter, en faire pratiquement un produit fini, c'est-à-dire recouper, traiter, monter et l'envoi pour diffusion à la rédaction centrale à Kinshasa. Dans mes tâches quotidiennes, la première des choses que je fais dès que j'arrive au bureau, c'est de choisir, de voir les sujets du jour, d'actualité, recueillir suffisamment d'éléments auprès de sources et autres contacts. Je fais également souvent le monitoring des différentes chaînes de télé et de radio de la ville de Matadi et j'appelle aussi certains confrères qui me contactent également s'il y a des informations à nous filer pour justement les traiter et les diffuser. Et je les présente donc à la conférence de rédaction chaque matin à 8h30. Aussitôt les orientations et les échanges avec la rédaction centrale de Kinshasa terminée. Je fais donc ce que je viens de dire tantôt. J'envoie l'élément fini pour diffusion à Kinshasa. Je réalise également des traductions en Lingala qui viennent d'autres provinces. Et il m'arrive aussi de réaliser des dossiers et magazines à d'autres émissions de Radio Capital que Dialogue entre Congolais ou les magazines des jeunes. Nous descendons chaque fois sur le terrain afin de réaliser de reportages, et etc. Avant Radio Capi, j'ai plus œuvré dans l'enseignement au niveau secondaire pendant plus de 3 ans. S'en est suivi mon parcours dans une ONG de la Banque mondiale de démobilisation et de réinsertion des ex-enfants soldats. Nous sommes là dans le territoire de Manda et juste après cette ONG, j'ai fait mon premier test en 2005 à Radio Capi à Matadi. Nous étions 35 candidats, on a été sélectionnés à 6 et après l'interview, devant, je me rappelle, Michel Violet, un des responsables de la Radio Capi Fondation Hirondelle, il y avait également Étienne Rogéry, l'un des mes rédacteurs en chef. À cela, il faut ajouter Jean-Claude Toumba Kamanga. Ils m'ont tous formé, je dois le dire. Et sur les 6, 2 personnes ont réussi pratiquement et j'étais parmi les 2. Et voilà en résumé. La petite histoire
histoire en ce qui concerne mon embauche dans Radio Okapi, pratiquement mon parcours aujourd'hui fonctionnaire des Nations Unies en RDC, bien entendu. Alors, pendant mes temps libres, je lis beaucoup. J'ai fait des recherches sur l'Égypte ancienne à tous les niveaux spirituels et sur les connaissances léguées par nos ancêtres. Pour cela, vous permettrez de citer l'un de mes maîtres, c'est Cheikh Anta Diop. Outre ces recherches, j'aime le football, je joue presque chaque dimanche. J'écoute trop de la musique, souvent quand je travaille, et ça ne me gêne jamais. En ce qui concerne la nourriture, je m'adapte à tout. Mais quand il s'agit de faire effectivement un choix, j'aime manger le liboké de possé, une forme de chenille blanche et jaune, avec poisson frais, accompagné de touka, c'est une chiquante traditionnelle. Et j'aime trop le limono, une forme de feuille de manioc préparée autrement. Alors, pour terminer, par rapport à mes projets d'avenir, je vois ma vie après Radio Okapi dans trois domaines. Le journalisme comme patron d'une grande agence de presse. Je compte également être un grand diplomate international. Je me vois grand acteur de résolution des conflits et aussi grand agriculteur. Enfin, je dois également enseigner les connaissances africaines. Voilà ce que je ferai après ce merveilleux boulot que je suis en train de faire aujourd'hui à la Radio Okapi. J'aime toujours terminer par cette maxime africaine qui dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire des chasseurs. » Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Le 27 mars, ce sera la journée mondiale du théâtre. Et voilà, c'est de la fin du magazine des Nations Unies. Merci à tous de nous avoir suivis. Je suis Tina Salama, je vous l'ai présenté. À la mise en onde, Noël Mokondo. À la réalisation, Norémi Senga Kalala. À la coordination, Jean-Pierre Elali Coco, sous la supervision de Martha Sebou-Jangoué. On se dit à très bientôt sur Radio Okapi. Ciao.